bientôt au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Je reviens de Florence. C'est un véritable désastre. Catastrophe en vie humaine, certes, il y aurait à présent 130 morts dénombrés, des milliers de disparus, mais désastre aussi en ce qui concerne le patrimoine artistique de la vieille ville italienne. Tous les monuments historiques ont été plus ou moins touchés.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions sont plutôt différentes.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. La coulée de boue qui a dévasté au début de ce mois la ville de Mocoa en Colombie, en causant plusieurs centaines de morts, a donné l'occasion aux journaux de rappeler qu'après trois années relativement calmes sur notre planète, l'année 2016 avait vu une remontée du nombre des catastrophes naturelles. Un réassureur allemand, concerné au premier chef, comme bien l'on pense, a relevé pour ces 12 mois 750 événements dramatiques entraînant la mort d'au moins 10 000 personnes et 175 milliards de dollars de dégâts. Fukushima, après 6 ans, n'est pas loin de nos mémoires, pas plus que le tsunami de 2004 dans l'océan Indien. Thomas Labbé, chercheur à l'université de Bourgogne, vient de consacrer un livre aux catastrophes naturelles du Moyen Âge. Et cette contribution dense et éclairante à une très longue histoire m'a donné le goût de l'inviter ce matin, d'autant plus qu'il y joue spontanément le jeu de la comparaison avec les temps modernes, ceux d'avant la Révolution et avec les nôtres. Épidémies, séismes, éruptions volcaniques, inondations, tornades, avalanches, glissements de terrain, raz de marée, incendies et même nuées d'insectes, cette litanie nous est tragiquement familière. Mais d'une époque à l'autre, les comportements des hommes ont beaucoup changé. Mesures et perceptions de ces drames, efforts d'explication religieuse ou naturelle, réactions affectives entre l'individuel et le collectif, attitude des élites et attitude du peuple après le choc, rythme des mémoires, entretenu ou chassé, tel est le faisceau des données qui mérite qu'on s'y attarde, car elles peuvent dire beaucoup par-delà les puissants traumatismes ressentis sur l'évolution des sociétés et des sensibilités partagées.
Ô malheureux mortel, ô terre déplorable, ô de tous les mortels assemblage effroyable, d'inutile douleur éternel entretien, philosophe trompé, qui criait « tout est bien ». Accourez, contemplez ces ruines affreuses, ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses, ces femmes, ces enfants l'un sur l'autre entassés, sous ces marbres rompus, ces membres dispersés. 100 000 infortunés que la terre dévore, qui, sanglants, déchirés et palpitants encore, enterrés sous leur toit, terminent sans secours, dans l'horreur des tourments, leur lamentable jour. Aux cris demi-formés de leurs voix expirantes, au spectacle effrayant de leurs cendres fumantes, direz-vous, c'est l'effet des éternelles lois qui, d'un Dieu libre et bon, nécessite le choix? Direz-vous, en voyant cet amas de victimes, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes? Quel crime? Quelle faute ont commis ces enfants sur le sein maternel écrasé et sanglant? Lisbonne, qui n'est plus, eut-elle plus de vices que Londres, que Paris, plongée dans les délices? Lisbonne est abîmée, et l'on danse à Paris. Tranquille spectateur, intrépides esprits, de vos frères mourants contemplant les naufrages, vous recherchez en paix les causes des orages. Mais du sort ennemi, quand vous sentez les coups, devenus plus humains, vous pleurez, comme nous. Croyez-moi, quand la terre entr'ouvre ses abîmes, ma plainte est innocente et mes cris légitimes. C'est l'orgueil, dites-vous, l'orgueil séditieux, qui prétend qu'étant mal, nous pouvions être mieux? Allez interroger les rivages du Tage, fouiller dans les débris de ce sanglant ravage. Demandez aux mourants, dans ce séjour d'effroi, si c'est l'orgueil qui crie « Ô ciel, secourez-moi ! Ô ciel, ayez pitié de l'humaine misère !» Tout est bien, dites-vous, et tout est nécessaire. Êtes-vous assuré que la cause éternelle qui fait tout, qui sait tout, qui créa tout pour elle, ne pouvait nous jeter dans ces tristes climats sans former des volcans allumés sous nos pas? Borneriez-vous ainsi la suprême puissance? Lui défendriez-vous d'exercer sa clémence? Je désire humblement, sans offenser mon maître, que ce gouffre enflammé de soufre et de salpêtre eût allumé ses feux dans le fond des déserts. Je respecte mon Dieu, mais j'aime l'univers. Quand l'homme ose gémir d'un fléau si terrible, il n'est point orgueilleux, hélas, il est sensible.
Thomas Labbé, bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Je suis sûr que vous avez reconnu un extrait du très fameux poème de Voltaire, Le désastre de Lisbonne, qui est ici lu par Emmanuel Lemire dans Continent Science, le 7 mars 2006, un poème qui concerne la catastrophe qui a tant frappé l'Europe du 1er novembre 1955, le tsunami qui a touché la capitale du Portugal et entraînant un terrible incendie. Nous sommes à quelques distances, bien sûr, temporelles, à grande distance de votre cher Moyen-Âge. Et néanmoins, il me semble que ce poème pose beaucoup des questions que nous allons avoir à envisager, peut-être sous un autre angle, sous un autre éclairage. La question des causes, cause d'un événement aussi tragique, les problèmes de la responsabilité des hommes, leur solidarité ou leur indifférence. Toute l'Europe s'est préoccupée de cet événement. Et en somme, la question des relations entre Dieu et le mal qui préoccupe tant Voltaire.
Exactement, oui, ce poème, c'est même ce qu'on pourrait appeler l'invention de la catastrophe moderne. Hein. C'est, Voltaire utilise des mots qui font sens directement à nos oreilles, en se lamentant sur le sort des victimes, en se demandant pourquoi un Dieu bon peut créer un tel type de désastre. Et évidemment, il a un discours très différent de ce qui a été le discours des gens du Moyen-Âge et même des gens encore du XVIIe siècle. Disons qu'il il donne un aspect de scandale à la catastrophe et en ce sens, il a une vision relativement moderne et il s'oppose dans ce poème à Leibniz. Hein, c'est une attaque contre la théodicée de Leibniz qui, théologiquement, soutenait que tout est bien dans le meilleur des mondes. Et en réalité, Voltaire explique que non, cette catastrophe, avec les dégâts et les morts qu'elle a produites, n'est pas un événement bon et ne peut être qu'un événement de la nature et non pas un événement divin, puisque il refuse que son Dieu ait créé un tel type d'événement.
Tout est bien dans le meilleur des mondes possibles, c'est la formule fameuse qu'il met dans la bouche de Pangloss, ce personnage de Candide, qui d'ailleurs ne survit pas à la catastrophe puisqu'il est pendu.
Voilà, exactement. C'est tout le paradoxe de la réflexion face à ce type de catastrophe pour un homme du XVIIIe siècle qui était pris de l'esprit des Lumières et qui, évidemment, était pris de l'esprit du progrès, du bonheur des hommes et commence à refuser ce discours théologique un peu plus ancien qui, non pas aller dans le sens d'une certaine passivité face aux catastrophes, parce que c'est absolument pas le cas, mais d'une certaine acceptation du drame.
Catastrophe, il faut toujours s'attarder un instant sur le vocabulaire. Il est relativement récent au sens d'événements touchant une collectivité. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette formule, de ce substantif, à rapprocher peut-être de celui de calamité?
Oui, calamité, ça serait une version ancienne, d'une certaine façon. Le mot catastrophe lui-même est un mot assez récent qui se développe, d'ailleurs, qui se diffuse avec le tremblement de terre de Lisbonne, notamment dans les gazettes de l'époque, qui ont beaucoup parlé de l'événement et qui en ont fait un événement à l'échelle européenne. Ces gazettes utilisent le mot catastrophe, qui est un mot assez nouveau.
Mais on le trouve déjà dans Rabelais, pourtant.
On le trouve dans Rabelais, mais alors justement, il apparaît dans la langue française au XVIe siècle dans un sens très différent du sens actuel, puisqu'il s'agit simplement du bouleversement qui arrive à la fin d'une histoire. C'est un sens littéraire. Hein. Il suffit que l'histoire se termine exactement à l'opposé de la narration qui a eu lieu auparavant pour que on parle de catastrophe. Donc une catastrophe peut être heureuse, peut être malheureuse. C'est pas forcément la fin d'une tragédie, ça peut être une catastrophe tout à fait heureuse. Et le sens négatif qu'on va associer à la catastrophe apparaît plutôt vers le milieu du XVIIe siècle, toujours en restant littéraire. Hein. Tout d'un coup, la catastrophe se limite à la fin d'un ouvrage malheureux, mais le sens véritablement accident collectif entraînant des morts, tel qu'on le connaît maintenant, c'est le XVIIIe siècle, et plus encore d'ailleurs le XIXe siècle. Au XVIIIe, c'est encore relativement rare. On parle de la catastrophe de grands personnages, pour parler des destins politiques déchus, hein, de la catastrophe de Murat, par exemple, le roi de Naples, ou des choses comme ça, encore dans les années 1810-20, et c'est surtout après les années 1850, avec les accidents ferroviaires et les catastrophes minières, c'est un signe des temps, que les journaux commencent vraiment à utiliser le terme catastrophe dans le sens d'accident créant des morts.
Oui, il est significatif que dans le grand dictionnaire historique de 1689, la définition du mot soit la suivante. Le dénouement ou l'issue d'une tragédie, c'est littéraire, comme vous venez de nous le dire.
Voilà.
Le mot de catastrophe se prend ordinairement pour un malheur extraordinaire qui termine quelque grand dessein. C'est plutôt négatif quand même.
C'est plutôt négatif, mais c'est encore dans ce sens de grand dessein politique. C'est-à-dire c'est la chute de grands personnages en général. À ce moment-là, on l'utilise encore très très peu pour des catastrophes de type naturel.
On voit dans l'encyclopédie de D'Alembert et Diderot, on voit un début de glissement de sens vers la notion de malheur et de fin tragique. Mais c'est encore esquissé.
C'est encore esquissé, exactement. C'est comme bien souvent, hein, on a un terme dans l'histoire des mots très différent au XVIe siècle, et puis un sens figuré qui apparaît, et c'est de ce sens figuré que va naître le sens moderne en général, qui est adopté à la fin du XVIIIe siècle ou durant le XIXe siècle. Donc.
Au Moyen-Âge, on trouve plutôt signum, prodigium, miraculum, defectus occultus, la terreur, l'effroi, la violence et l'émerveillement.
Voilà, c'est un champ sémantique complètement différent qui ramène la vision de l'événement à un miracle, tout simplement, ou un signe divin. Et en fait, ce qui est de surprenant, hein, et c'est là où on voit toute la construction sociale qu'il y a derrière la catastrophe, c'est que le vocabulaire médiéval utilise très peu de termes qui ramènent à la destruction. On pourrait penser à des termes, justement, on parlait de calamité, qui est un terme biblique, qui ramène à la destruction. Et bien finalement, les chroniqueurs du Moyen-Âge utilisent très peu ce terme. Hein, alors ils l'utilisent, mais la proportion par rapport à d'autres termes, donc comme signum, prodigium, ou ce type de mots, est extrêmement faible. Et en fait, on voit que leur vision de l'événement n'est pas dirigée vers ses conséquences dramatiques, destructrices, tragiques pour les victimes, mais plutôt vers l'origine de l'événement.
Les
causes de l'événement, exactement. Comment les expliquer, puisque Dieu doit être derrière ce type d'événement, évidemment. Donc on est dans une vision beaucoup plus théologique.
Du coup, cela peut concerner des événements, des plaies très, très différentes. Je vois en vous lisant que Anselme de Gembloux, en 1117, à propos des drames qui ont touché sa ville, Liège, met sur le même plan un orage au mois de mai, un autre orage le 8 juin, l'histoire curieuse d'une femme dont les mains se sont couvertes de sang en lavant un enfant, son enfant, une série de tempêtes en juillet et en août, provoquant un incendie, la naissance d'un monstre, une éclipse de lune et un autre phénomène astronomique à la fin de l'année. Tout cela dans un ensemble un peu flou.
Dans un ensemble qui nous paraît flou, puisque les repères ne sont plus les mêmes maintenant. On aurait plutôt l'idée de mettre en liste des inondations parce qu'elles se ressemblent, ou mettre en liste des tremblements de terre. Pour un homme du Moyen-Âge, tous ces événements ont un sens commun, qui est évidemment celui du questionnement qu'il pose à l'observateur du monde, hein, tout simplement. Ce sont des événements qui paraissent merveilleux, qui paraissent aller contre la nature d'une certaine façon, même si on explique les phénomènes naturels, hein, mais parfois on ne les explique pas entièrement, et donc ils peuvent paraître contre nature, au même titre que l'histoire de cette femme curieuse, dont les mains sont couvertes de sang alors qu'elle se lave tout simplement les mains.
Alors il y a le casus, c'est-à-dire ce qui est normal, et le signum qui est hors norme et qui signifie quelque chose. Les causes, vous montrez bien que s'entrelacent toujours les explications divines par l'intervention du sacré, et d'autre part, une recherche des causes naturelles. Cet entre-là est topique de cette période.
Voilà, c'est une des caractéristiques majeures de la pensée médiévale, que les causes théologiques ne s'opposent pas aux causes naturelles. On utilise les deux et on les associe les unes avec les autres sans que l'une vienne annuler l'autre, tout simplement. Donc, En réalité, on a toujours un fond théologique dans l'explication des catastrophes, mais pour autant, on utilise également les causes naturelles, et les chroniqueurs du Moyen-Âge sont tout à fait capables d'expliquer un tremblement de terre par des explications physiques. Alors, on n'est pas dans la tectonique, pour eux c'est un événement météorologique, mais enfin, ce sont des causes qui leur paraissent tout à fait naturelles, ce qui ne les empêche pas d'y voir aussi un signe divin derrière, ce qui est évidemment la caractéristique de cette époque. Et du coup, ça entraîne une vision de la catastrophe avec un couple qui s'oppose entre le casus et le signum dont vous parliez. Donc le casus, c'est l'accident, l'événement brut, et le signum, c'est l'événement pensé, non pas sous forme de catastrophe, mais sous forme de signe. Et cette distinction est finalement l'équivalent de ce que maintenant on appelle l'aléa et la catastrophe. Sauf que comme la perception des choses est très différente, la catastrophe se définit par les dégâts. Donc on distingue l'accident de l'événement à cause des dégâts qu'il engendre. Au Moyen-Âge, on distingue l'accident de l'événement à partir donc de cette interrogation sur les causes et de cet entre-là, entre la cause divine et, la cause, et les causes naturelles.
Alors pour faire un rapprochement très concret, puisque vous nous rappelez qu'il y a eu une inondation dramatique de l'Arno à Florence en 1333, je vais vous faire entendre l'évocation d'une autre inondation, longtemps après, en 1966, l'archive des Nuits magnétiques de France Culture de juillet 1992, où Piero Bigongiari raconte ses souvenirs de ce moment dramatique.
L'Arno est monté de 6 mètres. Dans ma maison, au premier étage, il y avait l'eau. Hein. Vous le voyez tranquille, semble une fleuve plutôt historique que réelle, n'est-ce pas ? Tandis que... À un certain moment, il a des rages incroyables et j'ai vu tomber, j'ai dit, les parapets au bord de l'Arno dans un silence incroyable. Nous étions comme dans une espèce de silence cosmique. On n'entendait absolument rien. Hein. Avec l'eau qui courait très, très violemment, on avait l'impression d'être dans un bateau qui allait dans l'autre direction. C'était une impression assez curieuse et assez plutôt épouvantable, je dois dire. C'était une énorme, comme je vous disais, une énorme lac, terrible, violent, vous comprenez. Nous étions dans une situation d'impossibilité qui nous donnait ce sens justement de fin du monde, je dois dire.
Est-ce que vous pensez, Thomas Labbé, que le récit d'un contemporain des inondations antérieures, celle de 1333, l'Arno montant de 5 ou 6 mètres, est-ce que ce récit, est-ce que ces réactions auraient été très différentes ?
Il y a des points communs entre les discours modernes et le discours médiéval. Hein. On observe la montée des eaux progressives sans aucun problème. On observe les maisons qui sont emportées par les flots, mais il y a aussi des choses très très différentes. Et l'Arno n'a pas inondé qu'en 1966, mais aussi en 1333. C'est une inondation extrêmement célèbre de ce fleuve parce qu'elle a donné lieu à un texte extrêmement long d'un chroniqueur florentin qui s'appelle Giovanni Villani. Giovanni Villani donc nous explique, c'est un membre de la commune de Florence, nous explique par le détail comment il a perçu la catastrophe. Et à côté de cette observation quotidienne de la catastrophe, d'une certaine façon, il en fait parle beaucoup, on y revient toujours, des causes de l'événement, beaucoup plus que de ses conséquences, encore une fois. Il explique qu'il y a eu des morts, hein, 300 morts. Mais globalement, ce qui l'intéresse le plus longuement, c'est un débat qui a eu lieu à Florence entre des astrologues qui ont expliqué la catastrophe par les conjonctions planétaires. Alors, dans un récit extrêmement compliqué hein, et très précis au niveau astrologique, hein, on est à Florence, c'est à une époque où l'astrologie est très en vogue pour expliquer les phénomènes de la nature. Alors, il explique qu'il y a eu une éclipse, qu'il y a eu un alignement de planètes, enfin, énormément de choses très complexes.
Et on l'explique après coup, on ne l'a pas prévu.
Oui, bien sûr, évidemment, les astrologues font penser qu'il l'avait éventuellement prévu, mais en réalité, c'est après coup. Et ensuite, il explique également très longuement l'aspect théologique de la chose. Et là, il met évidemment les péchés des Florentins en première ligne pour expliquer la catastrophe, hein, pour les pour les théologiens, c'est la désorganisation des mœurs sociales des Florentins, et notamment leur rapport à l'argent, puisqu'on est dans une ville extrêmement prospère, où le problème de l'usure, notamment à cause de la banque, est très important. En tout cas, pose un véritable débat chez les théologiens. Et ce qui est intéressant, c'est que Giovanni Villani conclut, à la fin de son récit, que finalement, c'est Dieu qui a envoyé la catastrophe, tout en suivant le cours de la nature.
Toujours la rencontre entre ces explications pré-scientifiques ou scientifiques, et d'autre part, le tribut apporté à l'évidence de l'intervention de Dieu qui punit les humains.
Exactement.
On trouve cela également à l'époque des guerres de religion, évoquant la Bible. On trouve ça déjà dans la Bible. Rappelez-vous,
oui,
rappelons-nous Agrippa d'Aubigné, fuyez Lot de Sodome et Gomorre brûlante, n'ensevelissez pas vos âmes innocentes avec ces réprouvés. Cette idée fondamentale que quand il y a un drame, c'est aussi la responsabilité des humains dévoyés.
Exactement. C'est le modèle du déluge biblique, tout simplement, hein, de la même façon. De toute façon, la pensée médiévale est profondément ancré sur des modèles bibliques. Et cette question de la responsabilité des victimes, c'est évidemment un aspect fondamental qui nous différencie de la pensée médiévale, puisque ça engendre un rapport à la souffrance entièrement différent, puisque on pense la responsabilité des victimes, ça veut dire que la catastrophe est infamante d'une certaine façon, et on se pose véritablement la question si les sinistrés n'ont pas mérité leur sort, d'une certaine façon, ce qui est complètement différent dans la façon ensuite d'appréhender la souffrance collective. Et il existe des textes extrêmement intéressants. Toujours en 1333, on peut parler de cette lettre du roi Robert d'Anjou, qui envoie une lettre de consolation en tant que grand du monde au gouvernement de la cité florentine, qui vient de se faire donc dévaster par l'inondation.
Qu'est-ce qu'il leur dit ?
Ce qu'il leur explique, c'est qu'ils sont coupables. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il utilise une expression absolument remarquable. Il dit qu'en vertu de la charge royale qui lui incombe, il ne peut pas mentir et il ne peut pas leur dire qu'ils sont innocents. Il utilise le mot lui-même, innocenzi, en italien, parce que cette lettre est rédigée en italien. Et il explique ensuite aux Florentins que ce sont leurs péchés, évidemment, qui sont responsables de la catastrophe et qu'ils doivent endurer la catastrophe avec patience. On n'est absolument pas dans un discours de déploration, de lamentation, d'empathie. Au contraire, il faut endurer la catastrophe avec patience, comme Job a enduré ses tribulations avec patience. Et il faut savoir saisir au vol, finalement, la chance que constitue pour eux la catastrophe, puisque Dieu leur a envoyé ce signe pour les remettre sur la voie de leur salut collectif.
Donc ce que leur apporte le roi, c'est essentiellement le fait de les aider à prendre conscience de leurs responsabilités.
Exactement.
C'est moins concret que des aides alimentaires ou autres.
Dont il ne parle absolument pas, puisque sa vision n'est pas la vision d'innocentes victimes, mais de coupables d'une certaine façon.
Le roi dit « À raison de la vérité que notre condition royale nous impose de conserver, nous ne pouvons nous permettre d'agir comme un ami flatteur et discuter de la justice de Dieu en vous disant que vous êtes innocent.
Voilà. »
C'est clair.
Tout est dit. Tout est dit sur la vision médiévale de la victime. Et cette interrogation n'est pas qu'un effet rhétorique. On la retrouve parfois véritablement dans des documents. Là, il s'agit quand même d'un document politique. On n'est pas du tout dans un document de type théologique. Mais parfois, on trouve des conseils urbains enquêtés. J'ai des exemples en Allemagne, à la fin du XVe siècle, enquêtés avant de subvenir éventuellement aux besoins des sinistrés en cas de catastrophe, si l'événement n'a pas été envoyé comme une violence divine, c'est le mot qu'ils utilisent, avant de venir aider les victimes. Donc on s'assure finalement que les victimes sont responsables ou pas avant d'aller les aider. Donc il y a une vraie interrogation sur cette question.
Dans ce même XIVe siècle, on trouve un personnage célèbre, le grand poète Pétrarque, qui a également réagi de façon intéressante et qui mêle aussi les analyses de ce qui a pu se passer, la description poétique et en même temps la réflexion sur la responsabilité des hommes. Et il écrit « Quant aux mœurs infectées, aux études dépravées, à l'habillement déformé, il est clair que la racine du mal se situe seulement chez les hommes. Cependant, moi-même, comme je l'ai déjà dit, je ne discute pas des causes, mais seulement des choses, lesquelles assurément n'existaient pas comme telles autant de mon enfance et de mon adolescence. Bon, il y a une contribution à la longue série des vieillards qui disent, ou des hommes mûrs qui disent c'était mieux avant, mais laissons cela de côté. Ce qui nous frappe, c'est cette idée qu'il y a une punition. Il ne faut pas s'indigner de ce que nos successeurs ne croiront pas, des choses que nous-mêmes ne croirions pas de la part d'autres personnes. Quant à moi, j'avoue que cette époque m'invite à croire beaucoup de choses sur des mots dont le genre humain n'est pas extérieur, comme les susdits déluges, tempêtes et incendies. Et là, on est conduit du monde de la responsabilité morale à déjà quelque chose comme une réflexion sur une responsabilité écologique. Le mot peut paraître anachronique, Thomas Labbé, mais néanmoins, il y a quelque chose comme cela que vous montrez bien.
Oui, c'est un aspect assez inattendu de la pensée médiévale, cette capacité de réflexivité sur le cours des événements du monde et cette capacité à intégrer le cours des phénomènes naturels dans le social d'une certaine façon et de faire un lien entre véritablement la société et les catastrophes. Alors, c'est un discours qui dont Pétrarque est une bonne illustration, avec d'autres. Hein, on a d'autres auteurs qui, dans les mêmes époques, entre 1350 et 1400, utilisent beaucoup ce thème de « les catastrophes sont plus importantes qu'auparavant, les événements semblent s'accélérer ». Il faut noter que c'est une période qui est une période de mutation à plusieurs aspects. D'abord, une véritable période de mutation environnementale, puisqu'on passe dans le petit âge glaciaire. Donc il y a un véritable refroidissement climatique que probablement les chroniqueurs, les auteurs de l'époque observent, hein, puisque ça crée énormément de difficultés frumentaires, notamment.
Mais qui n'est pas la faute des hommes, ça.
Ça n'est pas la faute des hommes, mais ils observent ce changement-là. Ils observent un changement social extrêmement important, c'est la guerre. C'est le schisme, c'est l'installation de l'État royal progressivement qui remplace les anciennes structures. Et en fait, il mélange finalement les deux ordres de fait, la crise sociale et la crise environnementale, pour enclencher un discours dans lequel ils expliquent que l'homme est responsable d'un changement global, d'une certaine façon.
On trouve déjà des réflexions sur la déforestation, ce qui nous touche.
Voilà,
de
exactement.
Songer aux responsabilités des hommes et pas seulement du destin, de Dieu ou du climat sur lequel on n'a pas prise, la responsabilité des hommes dans certaines catastrophes.
Tout à fait, ça fait partie des moyens d'explication des phénomènes naturels violents. On a conscience, ils ont conscience, hein, ces hommes du XIVe siècle, de la fragilité de l'environnement, du côté artificiel de l'environnement, puisque tout est aménagé hein, à cette époque-là, et donc ils ont parfaitement conscience que leur façon d'aménager l'environnement peut conduire à des catastrophes si la chose est mal gérée, et inversement, et si on reprend le cas de l'inondation de l'Arno, les habitants de Florence, en 1333, ont accusé la ville d'avoir autorisé l'installation de pêcheries le long du cours du fleuve, ce qui aurait eu pour eux comme conséquence de surélever le lit du fleuve, et donc de créer une catastrophe d'autant plus importante et plus importante que l'inondation précédente, disent-ils, qui avait eu lieu en 1269. Ils expliquent que cette inondation avait été moins importante parce que, à ce moment-là, le fleuve était moins aménagé.
C'est exactement ce qu'on a dit en 1910, au moment de la fameuse crue centennale de la Seine.
Voilà.
En ajoutant de surcroît une pincée d'antisémitisme à l'extrême droite, en expliquant que c'était des juifs qui avaient acheté des terrains et qui les avaient modifiés de façon perverse et dangereuse. En tout cas, dans votre Moyen-Âge, personne ne chanterait comme Monique Froidevaux en 2002, « C'est la faute à personne ».
Une ville a cessé ce matin d'exister, car la terre a tremblé et la ville a sombré. Des êtres par milliers sont morts à prisonniers dans des cages bon marché, pensées par des banquiers. C'est la faute à personne, l'explication est bonne. C'est la faute à personne, c'est la nature en somme. C'est la faute à personne. Dans un coin délaissé des pays développés, un peuple assommé près d'un fleuve tout l'été. Et comme chaque été, le fleuve a débordé. Plus de riz, plus de blé, mais des corps desséchés. C'est la faute à personne, l'explication est bonne. C'est la faute à personne, c'est la nature en somme, c'est la faute à personne.
C'était donc Monique Froidevaux qui interprétait C'est la faute à personne en 2002. Elle appartient au groupe suisse Le Soldat Inconnu. Vous pensez qu'on aurait pu la chanter? Non, dans votre Moyen-Âge.
Une catastrophe n'est jamais la faute à personne. C'est même ce qui en fait le principe même. Hein. C'est qu'il s'agit d'un phénomène qui intègre la société dans son processus. Et c'est ce qui différencie la catastrophe de l'événement. Donc de toute façon, peu importe la manière dont on pense l'événement, l'homme est toujours profondément inclus dans la catastrophe.
Nous parlions à l'instant de la prévision prétendue des catastrophes. Il y a aussi la mémoire des catastrophes qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, parce que on voit comment les anniversaires sont l'occasion de rappeler par le film, par le documentaire, par les récits, ce qui a pu bouleverser à un moment donné l'humanité sur cette planète, l'a frappé énormément. J'évoquais Fukushima ou le tsunami de Thaïlande. La mémoire de ces événements, comment se développe-t-elle dans votre Moyen-Âge, puisque nous parlons ce matin des catastrophes à cette époque-là?
Déjà, paradoxalement, ce qu'il faut souligner, c'est que la plupart du temps, les catastrophes sont oubliées. C'est ce qui en fait, d'ailleurs, l'intérêt majeur, c'est qu'on se étonne à chaque fois. Et souvent, les chroniqueurs expliquent qu'une inondation n'a jamais été aussi violente que celle qu'ils viennent d'observer, alors que quelques années auparavant, ils avaient observé une inondation tout aussi violente dont ils avaient expliqué le côté inouï. Donc ça, c'est un premier aspect. Il y a une érosion de la mémoire des catastrophes.
On exagère l'inédit. C'est encore très fréquent.
Oui, tout à fait.
Par les temps qui courent, je vous assure.
Exactement. Oui, oui. Bien souvent, au bout de quelques années, les catastrophes sont oubliées, sauf les très grosses catastrophes, évidemment. Comme pour le Moyen-Âge, le tremblement de terre de Bâle en 1356, qui a été raconté par Pétrarque dans plusieurs de ses écrits, puisqu'il était présent au moment de la catastrophe.
Il a traversé beaucoup de catastrophes, cet homme.
Il n'a pas eu de chance, Pétrarque, en effet, ce qui en fait un observateur assez inattendu pour l'historien des catastrophes. Hein. On se retrouve souvent sur la route de Pétrarque. Alors, il a vécu un raz-de-marée en 1343 dans la baie de Naples. Il a senti les secousses du tremblement de terre du 25 janvier 1348. Il n'était pas à l'épicentre, mais il a quand même senti les secousses, le tremblement de terre qui avait eu lieu en Autriche. Et puis surtout, il était présent à Bâle en septembre 1356. La ville est détruite par un tremblement de terre le 18 octobre 1356 précisément. Quelques jours avant, il a suivi la cour de l'empereur Charles IV vers Prague. Et lorsqu'il revient à Bâle, il découvre la ville entièrement détruite.
Il avait vraiment la poisse, votre poète.
Oui, on peut le dire. En effet, on se demande s'il attirait pas les catastrophes. Mais disons que ça a été pour lui un choc absolument fondamental, je pense, dans son existence, de retrouver cette ville qu'il avait aimée. Il explique que son séjour a été très agréable à Bâle. Il la retrouve dans un véritable champ de ruines.
Il y a les tremblements de terre, il y a aussi les grandes épidémies, l'épidémie de la peste au milieu du XIVe siècle.
Voilà, qui a donné lieu à l'écriture de nombreux poèmes. Hein. On peut évoquer celui de Guillaume de Machaut, hein, qui écrit Le jugement du roi de Navarre en 1349, où il se met en scène comme quelqu'un de reclus dans sa chambre, fuyant l'épidémie. Un poème probablement écrit en 1349, donc très proche de l'événement. Et d'ailleurs, dans ce poème, il raconte d'autres catastrophes qui ont eu lieu avant la peste, en essayant d'ailleurs de les mettre en lien les unes avec les autres, de catastrophes comme le tremblement de terre de Rome de 1349. Il parle d'une comète qui aurait eu lieu en 1344. Parfois, les chroniqueurs utilisent des moyens mnémotechniques. Ça, c'est un élément assez typique de la mise en mémoire médiévale des catastrophes. C'est-à-dire qu'on écrit des petits poèmes assez courts, ou des rébus qui vont jouer sur soit le lieu de l'événement, soit sa date. Des choses comme ça qui se retiennent assez facilement, qui peuvent être éventuellement chantées. Ça peut être aussi un autre moyen de se remémorer la catastrophe, surtout au XVIe siècle d'ailleurs, on trouve des récits de catastrophes et à la fin, un petit poème chanté, certainement pour être plus facilement retenu. Et parfois, ces poèmes peuvent traverser vraiment les siècles, hein, puisque un récit d'un tremblement de terre de 1581 nous parle d'un poème qui avait été écrit après le tremblement de terre du 25 novembre 1348.
Donc, rebond de la mémoire. Vous pouvez nous en chanter un ?
Non, malheureusement, je suis pas musicologue, mais ça serait extrêmement intéressant de, parce qu'on a les notes de musique, hein, donc on pourrait les rejouer, un musicien.
Il y a quelque chose qui apparemment a disparu, mais peut-être pas complètement, vous allez nous le dire. Ce sont les processions qui sont très nombreuses à l'époque pour demander pardon, pardon à Dieu. À ce propos, il y a une œuvre intéressante, car elle peut marquer, si je vous lis bien, Thomas Labbé, un tournant. C'est l'auteur du Discorso Historico, Giannozzo Manetti, qui raconte en 1456 le tremblement de terre qui a frappé Naples. Tout le monde, de tous les statuts et des deux sexes, commença à prier en privé ou en public, et les processions que réclamait une grande foule défilèrent de jour comme de nuit par les rues et par les carrefours. Les participants se vêtaient seulement de bure et de cilice et cheminaient pieds nus. Ils portaient une corde autour du cou et s'avançaient si humblement et modestement qu'ils semblaient être comme conduits au dernier supplice vers la croix ou vers la potence.
Voilà, c'est un type de réaction qu'on peut trouver suite aux événements les plus dramatiques. Ça peut être aussi un moyen de faire entrer un événement dans la mémoire, ces processions, puisqu'on les répète ensuite, année après année, tous les ans à la date de la catastrophe. Et si on revient au tremblement de terre de Bâle, donc du 18 octobre 1356, on sait qu'encore au XVIe siècle, on processionnait dans la rue tous les 18 octobre pour commémorer la catastrophe.
D'ailleurs, il est peut-être excessif de dire que tout cela a complètement disparu. Je pense à l'invocation des saints, par exemple, au pied du Vésuve, du côté de Naples, les saints protecteurs, tels qu'on les voit surgir dans ce propos du romancier très notoire, fameux, Héry des Lucas, qui s'entretient avec Sylvain Bourmeau, notre collègue des antennes de culture, dans l'émission Lettres étrangères. C'était le 23 juillet dernier, 23 juillet 2016. Écoutons-le évoquer notamment Saint Janvier.
Ce sentiment d'être planté sur un sol sulfureux et dangereux fait partie de la constitution physique d'un Napolitain. Si vous enfermez un Napolitain dans une chambre sombre, sans lumière, il pourra vous dire exactement où se trouve le Vésuve. Parce que c'est son cauchemar principal. Mon père plaçait son lit avec la tête au Vésuve, toujours, et les pieds dans la direction opposée. Donc j'étais déjà prêt à pour aller dans cette direction. Il disait qu'il dormait mieux comme ça. Donc c'était le cauchemar de tous les Napolitains. Et c'est pour ça qu'ils se sont dotés d'un saint local qui s'appelle Janvier, qui est spécialisé en éruption. C'était un saint sismologue. Quand il y avait une éruption, on prenait la statue du saint et on l'a amenée contre l'éruption. L'éruption reconnaissait le saint et s'arrêtait. Donc pour les Napolitains, le sentiment du sacré ne vient pas du ciel, il vient du sous-sol. Et je partage ce sentiment de religieux face à l'immensité. Donc pour nous, la beauté, c'est une force de nature qui est toujours prête à nous balayer et faire sauter comme des sauterelles. D'abord, je crois que ça, c'est l'origine de la tarantella. La tarantella, c'est une espèce de danse qui veut calmer le sol. Ce n'est pas besoin que toi, tu trembles. C'est nous que nous tremblons sur le sol, à ta place. C'est une exorcisation du tremblement de terre, la tarantella.
Est-ce que vous vous attendiez, Thomas Labbé, à voir ce lien entre une danse, la tarantelle, et les tremblements de terre, ces catastrophes dont nous parlons ce matin ?
Non, c'est assez amusant, en effet, mais ça peut être une forme moderne de procession, finalement, peut-être saccadée comme ça, par la danse.
Plus joyeuse.
Plus joyeuse, oui, certainement. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, on processionnait assez régulièrement après les catastrophes. C'est pour ça que ça me fait penser à cet aspect-là des choses, puisque comme on considère évidemment l'événement comme un signe pour le salut collectif de la cité, hein, qui est détruite, la fuite d'une certaine façon vers la prière peut apparaître comme une réaction assez immédiate. C'est même, on ne processionne pas après chaque type d'événement, mais c'est ça qui fait la richesse de cette société, c'est que finalement on processionne assez peu. Parce que lorsqu'on est un habitant de Paris, on sait très bien que la Seine inonde régulièrement, donc il n'y a pas la peur à ce moment-là d'un signe particulièrement à craindre.
Comme l'Arnaud à Florence.
Comme l'Arnaud à Florence, exactement. Par contre, lorsque le seuil d'intelligibilité de l'événement est dépassé d'une certaine façon, alors là s'enclenche un mouvement d'urgence, et ce mouvement d'urgence est caractérisé par une explosion de religiosité assez forte. Parce que je compare ça avec la période contemporaine. On ne trouve pas des mouvements de solidarité, des dons après chaque type de phénomène naturel, mais après des phénomènes naturels qui posent véritablement question, qui dépassent un certain seuil, alors il y a des vagues de dons absolument gigantesques qui ont lieu dans l'urgence de l'événement pour subvenir aux besoins des victimes. Eh bien, je pense qu'au Moyen-Âge, cette explosion de religiosité, c'est la même chose. Elle n'est pas systématique, par contre, elle est le signe que quelque chose vient de se passer, que les gens ne comprennent pas.
Les princes craignent aussi le déguerpissement des populations, c'est-à-dire que, frappés par la faim, ils quittent les territoires ou les villes qui sont sous leur autorité.
Voilà, ça c'est aussi une réaction. Dans la mesure où, évidemment, les victimes sont assez démunies, hein, puisqu'il y a assez peu d'aide qui leur est apportée, en règle générale, hein, par les autorités. Donc, l'une des réactions... Alors, c'est assez difficile à circonscrire, hein, dans les sources, évidemment, dans les chroniques, mais parfois, on parle du fait que des villages ont été désertés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là la grande vulnérabilité quand même de cette société aux catastrophes, puisque même des événements d'ampleur a priori pas exceptionnels, du type une tempête estivale qui a simplement couché les récoltes, peut provoquer la désertion de la moitié d'un village, par exemple. En général, les gens d'ailleurs se dirigent vers les villes pour trouver de la nourriture, pour trouver un petit peu d'aide à travers la charité ecclésiastique, évidemment, à ce moment-là. Mais finalement, on trouve une vulnérabilité importante. Et puis, en cas de très grosse catastrophe, des villages sont désertés et ne sont plus habités pendant des années. Hein. On a des cas, après le tremblement de terre de 1348, hein, on sait qu'une vingtaine d'années après l'événement, certains villages sont encore absolument désertés.
Il me semble que la comparaison avec la zone de Fukushima au Japon ne serait pas indue, en l'occurrence. Quoi qu'il en soit, la peur joue un rôle très important, justement. La grand-peur qui circule. Écoutons ce qu'en dit, par exemple, Giovanni Villani, que vous citiez tout à l'heure, à propos toujours des pluies torrentielles à Florence de la Toussaint 1333. Et tout le monde vivait dans une grande peur, alors que sonnaient continuellement dans la ville toutes les cloches des églises afin que l'eau ne montât pas. Dans chaque maison, on disposait des bassines ou des chaudrons, et les gens qui étaient en danger hurlaient. Le fruit et le tumulte étaient si grands qu'on pouvait à peine entendre le son du tonnerre. Donc, un tumulte, un bruit, et puis ensuite, finalement, peu de mesure de ce qui s'est passé. Ça m'a frappé en vous lisant, Thomas Labbé. Il n'y a pas le souci que nous avons aujourd'hui de dénombrer le nombre de morts et de blessés.
Non, tout à fait. Ça rentre dans la perspective médiévale, hein, de la catastrophe. Cette peur dont vous parlez, c'est évidemment une peur religieuse, et c'est l'émotion qu'on retrouve le plus souvent, hein, dans les textes qui structurent vraiment les récits de catastrophes, contrairement à des récits contemporains qui vont plus insister sur des émotions de type empathique ou de type compassionnel avec les victimes, et donc utiliser la question des bilans comme une image absolument nécessaire à la bonne compréhension de l'événement, ce qui n'est pas le cas au Moyen-Âge, puisque on cherche plutôt à avoir un miracle à travers la catastrophe. Et donc, on ne compte pas les morts. Il y a même des obstacles théologiques au fait de compter les morts, puisqu'on estime que seul Dieu peut compter et peut dénombrer. Hein, donc, certains chroniqueurs expliquent qu'ils ne vont pas donner un chiffre, tout simplement parce qu'ils auraient peur de se tromper et de faire un travail qui n'est pas leur. Et cette question des bilans va être modifiée à partir surtout du milieu du XVe siècle, où progressivement on se met à compter les victimes. Et dans cette perspective-là, il y a un traité qui est extrêmement important, qui est écrit par Gianuzzo Manetti.
Nous le citions tout à l'heure, oui.
Exactement, après le tremblement de terre de Naples de 1456.
De terrae motu.
Exactement.
C'est-à-dire à propos du séisme.
Du tremblement de terre. C'est un ouvrage qu'il écrit, c'est une commande du roi d'Aragon à ce moment-là. Et Gianuzzo Manetti prend une perspective complètement différente de ses contemporains. D'abord, au lieu de associer la cause théologique et la cause naturelle, il dissocie entièrement les deux. Il explique que le tremblement de terre... Alors, il n'est pas athée. Il explique juste que ce tremblement de terre-là n'est pas un miracle. C'est un phénomène naturel, contrairement à ce que disait Giovanni Villani une centaine d'années auparavant. Et donc, son récit prend une tournure complètement différente et il donne du sens à la catastrophe à travers le bilan. Et pendant des pages et des pages, il décrit localité par localité le nombre de morts, l'ampleur des dégâts, en fabriquant d'ailleurs des images types qui vont être utilisées après lui pendant tout le XVIe et le XVIIe siècle, cette déambulation dans des lieux dévastés. Et il arrive à estimer la catastrophe à 12 000 victimes.
Donc vous faites de ce traité un tournant qui va progressivement conduire à la grande... évolution du XVIIIe siècle, où là s'introduisent deux données nouvelles, la recherche scientifique des causes des tremblements de terre, on insiste sur les causes naturelles et on cherche à les comprendre mieux, et puis l'idée de solidarité, je pense toujours à ce grand événement que fut le tremblement de terre et l'incendie de Lisbonne que nous évoquions en commençant dans la ligne de Voltaire, 1755. Il est notable que dès 1756, l'année suivante, l'Académie de Rouen propose un concours de dissertation sur la cause des tremblements de terre. Le vainqueur, Isnard, soulignant que si la vie était plus chère au commun des hommes que le soin d'amasser des richesses, on ne volerait pas vers les mêmes écueils où l'on s'était déjà brisé, on ne rebâtirait jamais une ville sur le même rivage où les tremblements de terre l'ont renversé. Réflexion sur les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets, donc il faut en tenir compte. Mm-hmm. Et puis, solidarité, ce sont deux éléments nouveaux. On voit toute l'Europe, les princes de l'Europe envoient au Portugal et à son premier ministre, le fameux marquis de Pombal, toutes sortes de soutien matériel et pas seulement diplomatique.
Voilà, ce qui est un trait assez caractéristique de cet événement de 1755, puisque la catastrophe rentre au cœur du gouvernement à ce moment-là. Et en fait, on est en 1755 à l'aboutissement, je dirais, d'un processus historique qui débute à la fin du XVe siècle et surtout au début du XVIe siècle.
Je me réfère aux travaux remarquables de Grégory Quenet, que j'avais invité autrefois à ce micro et qui a beaucoup travaillé sur Lisbonne.
Voilà, tout à fait. Donc, si Lisbonne invente la catastrophe, d'une certaine façon, le XVIe siècle invente le désastre, ce qui est déjà une chose importante. Le mot lui-même apparaît, d'ailleurs, dans les textes qui racontent les catastrophes les plus importantes, et notamment dans ces petits feuillets qui sont vendus dans les rues, qu'on appelle des occasionnels ou des canards. C'est un peu la naissance du fait divers. Et parmi tous les faits divers qui sont rapportés, on trouve des catastrophes naturelles. Et là, les textes utilisent un type de narration très différent de ce qu'on voyait dans les chroniques médiévales, c'est-à-dire qu'on insiste sur des émotions tragiques, la pitié, on insiste sur les personnes les plus faibles emportées par l'événement, donc les enfants, les femmes enceintes, les vieillards. On compte les victimes, on nomme les victimes, on trouve même des listes qui identifient les victimes, ce qui est tout à fait nouveau à l'époque. Et puis on met en scène les autorités qui viennent au secours des victimes. Alors il y a par exemple un récit de l'inondation du Rhône à Lyon en 1570 qui met en scène le gouverneur de la ville avec ses gentilshommes carrément les pieds dans l'eau pour aller sauver les gens qui sont emportés par les flots ou les aider à récupérer les biens qui sont emportés. Et en fait, c'est vraiment la caractéristique du XVIe siècle.
On est loin là du roi d'Anjou qui, nous l'avons dit tout à l'heure, considérait que inciter ces sujets à comprendre leur responsabilité morale, c'était déjà leur apporter beaucoup, puisque je vois que dans son Della Ragione di Stato, de la raison d'État, en 1589, le tournant a été pris. Giovanni Botero écrit « Véritablement, les désastres publics sont la propre matière et la meilleure occasion qui puisse se présenter à un prince pour se gagner l'âme et le cœur de ses sujets. En de tels cas, il convient de répandre le grain de la bienveillance et de susciter l'amour dans le cœur des sujets. Le grain fleurira et rendra avec un grand intérêt 100 pour 1. » Instrumentalisation voilà. du drame.
Instrumentalisation du drame, entrée du drame comme objet politique dans les réflexions théoriques. Alors Giovanni Botero, c'est quand même un texte absolument fondamental, hein, qui va inspirer toute la politique du XVIIe siècle et même encore d'une bonne partie du XVIIIe siècle. Et en effet, il fait rentrer pour la première fois quasiment les catastrophes dans le champ du politique. Le premier à le faire véritablement, en tout cas à ma connaissance, c'est un humaniste espagnol, Juan Luis Vives, qui en 1525 écrit un ouvrage intitulé « Du secours aux pauvres », tout simplement. Alors on est dans ce mouvement de réforme de l'assistance, hein, typique du XVIe siècle, c'est-à-dire que les autorités laïques prennent en charge la question de l'assistanat social, puisque la pauvreté leur fait craindre des désordres. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette rénovation de l'assistanat, on crée des catégories de pauvres. Les pauvres qu'il faut secourir, ceux qu'il ne faut pas secourir, parce qu'on estime que ce sont des pauvres professionnels qui vont de ville en ville tendre la besace et récupérer une aumône qui ne leur est pas due. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette recatégorisation de la pauvreté, les victimes de catastrophes trouvent une place, puisqu'on se pose la question des gens qui se sont retrouvés infortunés à cause d'un coup du sort.
Donc on est plus proche finalement de notre contemporain que de l'époque que vous considériez au XIe, XIIe, XIIIe ou XIVe siècle, Thomas Labbé. On est plus près finalement des catastrophes contemporaines telles qu'elles se reflètent dans de nombreux reportages. J'en ai choisi un pour conclure notre conversation. C'est un reportage de Pascal Rossini sur la catastrophe de Skopje en Macédoine. Considérable catastrophe, tout à fait dramatique, extrait d'Interactualité, 27 juillet 1963, y est interviewée une journaliste de Radio Belgrade. Et vous verrez qu'on y trouve l'idée de la compassion, l'idée de la solidarité, l'idée aussi de la description et du dénombrement d'une catastrophe de ce type.
À Skopje, après le tremblement de terre, la liste des morts retirés des décombres, cette liste s'allonge. 500, 600, maintenant 1000 morts dénombrés. Mais une inconnue terrible grossit, combien de victimes gisent encore sous les ruines et surtout, combien de blessés, combien de rescapés attendent dans leur prison de pierre, de gravats et de poussière, combien attendent qu'on vienne les retirer de là, qu'on vienne les secourir.
Mais nous avons Belgrade en ligne qui va nous faire le point du désastre.
Skopje, qui hier encore était une belle ville sur le Vardar, n'existe plus en tant que cité. Trois puissantes secousses l'ont transformée en moins d'une demi-heure en un effroyable amas de décombres. Les équipes de secours déploient d'infatigables efforts pour déblayer les ruines et sauver ceux dont on espère qu'ils sont encore en vie. En effet, la nuit dernière, on pouvait encore entendre dans les décombres des gémissements indiquant qu'il y a des survivants. Les Yougoslaves vivent intensément le douloureux événement qui se sont produits à Skopje. À Belgrade et dans toutes les villes et localités de Yougoslavie, les gens offrent leur sang, leurs jours de congé, leur logement et un foyer pour les orphelins. Dans toutes les villes, on continue à collecter l'aide destinée aux sinistrés. De nombreuses équipes médicales, du matériel sanitaire, des vivres et d'autres matériels ont été envoyés dans la capitale de la Macédoine.
Le journaliste a donné le nombre de morts probables. On est loin des interdictions de l'Ancien Testament. Thomas Labbé, qui disait qu'il ne revenait pas aux hommes de compter les hommes.
Tout à fait, là on est dans une vision extrêmement moderne de la catastrophe qui fonde le discours autour de la compassion, tout simplement, pour les victimes. Et d'ailleurs, c'est l'un des aspects les plus intéressants, je pense, de l'étude médiévale des catastrophes, c'est de pouvoir considérer cette compassion pour la souffrance comme une construction sociale et non pas comme une sorte d'invariant de l'homme, de l'humanité.
Puisqu'elle est largement absente dans votre période.
Voilà, c'est la grosse interrogation hein, qui ressort des sources du Moyen-Âge, dans lesquelles on observe que finalement, cette question du regard de la souffrance peut être perçue de manière extrêmement différente. Donc on a parlé de la responsabilisation, de la valorisation de la culpabilité des victimes. Au Moyen-Âge, on est loin de la victime innocente dont on nous parle dans cet extrait de reportage. Et du coup, en fait, la notion même de victime n'existe pas au Moyen-Âge. Le mot, d'ailleurs, n'existe pas, tout comme le terme de catastrophe. Le mot de victime n'existe pas.
Alors qu'il est si prégnant dans notre contemporains. On en a même fait un secrétariat d'État aux victimes.
Exactement, c'est un objet politique, maintenant la victime absolument fondamentale, qui a rapport avec l'introduction, alors Rousseau a beaucoup parlé de l'introduction au XVIIIe siècle de la pitié en politique, mais en expliquant, dès ce moment-là, qu'on ne plaint quelqu'un qu'à partir du moment où on pense qu'il est à plaindre. Et donc toute la question qui se pose dans la construction de l'événement et dans l'observation de la réalité, c'est qui est à plaindre? Alors, à l'heure actuelle, évidemment, une victime de catastrophe est considérée de manière totalement innocente. Il y a même une certaine sacralité de la victime. Personne ne penserait éthiquement à revenir sur cette question-là en observant un drame, ce qui n'est pas le cas au Moyen-Âge, où on ne perçoit pas finalement la réalité sous le, à partir, je dirais, de la tragédie et d'un rapport tragique au monde. C'est quelque chose d'assez contemporain que ce surgissement de la réalité à travers une trame tragique. On le voit bien dans la mémoire, hein, les processus de mémorialisation de grands événements comme les catastrophes ou d'autres. On a commémoré la guerre, par exemple, 14-18 ces derniers temps. Enfin, on est encore dedans pendant jusqu'en 2018. Il y a une sorte de surgissement de la mémoire tragique qui est fondamentale d'un rapport au monde tout à fait contemporain, je pense. Et qui fait que la catastrophe a une telle importance dans notre appréhension actuelle du monde. La catastrophe, c'est plus qu'un événement, c'est une façon véritablement de lire le monde.
Les victimes peuvent paraître individuellement n'être pas responsables de ce qui leur arrive, contrairement à ce que l'on pouvait penser à cause du péché au Moyen-Âge. Néanmoins, on retrouve la question de l'écologie, c'est-à-dire d'une responsabilité collective en face de la planète qui pourrait expliquer un bon nombre de catastrophes.
Oui, tout à fait, avec une transformation du discours finalement hein, par rapport à l'époque médiévale. Mais on a une structure de discours qui existait déjà, c'est-à-dire que l'homme est responsable du dérèglement de la machine hein, d'une certaine façon. Alors, ça n'est pas à cause de ses mauvaises actions envers la nature, mais c'est en raison de ses mauvaises actions envers Dieu. Et donc, il a rompu non pas le pacte avec la nature, mais le pacte avec Dieu tout simplement, avec toujours aussi en perspective le fait que une remise en ordre des choses peut aboutir à un arrangement de la situation de crise. Et c'est vrai que c'est un discours qu'on trouve déjà associé au phénomène naturel au XIVe et au XVe siècle.
L'ouvrage sur lequel Thomas Labbé nous avons fondé cette émission s'intitule, il vient de paraître, « Les catastrophes naturelles au Moyen-Âge », il vient de paraître aux éditions du CNRS. Nous avons fait fond aussi sur un livre très important de celui qui est votre maître, qui a préfacé votre ouvrage, Jacques Berlioz, professeur.
Exactement.
Jacques Berlioz, qui était directeur de l'école des Chartes. Catastrophe naturelle et calamité. Alors, il rapproche catastrophe et calamité au Moyen-Âge, paru à Florence en 1998. J'ai rendu hommage aux travaux de Grégory Quenet et à son livre « Les tremblements de terre en France au XVIIe et XVIIIe siècle », la naissance d'un risque, il montre bien la coupure, c'est un livre paru en 2005, il montre bien l'évolution majeure du temps de l'encyclopédie, non?
Oui, c'est ça, ce glissement à partir des années 1740 vers la construction du tremblement de terre comme un risque qui véritablement devient un objet de science. Et la diffusion finalement d'une peur également du risque sismique en France dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, et notamment après le tremblement de terre de Lisbonne, évidemment.
Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices qu'ils peuvent trouver une bibliographie complète, plus complète sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés et qu'ils peuvent bien sûr écouter, réécouter et télécharger cette émission pour la conserver dans leur bibliothèque personnelle. Samedi prochain, nous parlerons de l'art comme un butin, capture et restitution. Et j'aurai le privilège d'avoir à ce micro Bénédicte Savoy, qui vient d'être élu professeur au Collège de France. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Guillaume Cotte, une émission réalisée par Anne Kobilac, avec à la prise de son Théo Gomard, à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Clary Monac. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine O'Krent pour son émission Affaires étrangères.